propose de nous concentrer sur cette affirmation qui est toute simple en apparence. Dieu t'aime. Donc, si je vous dis, voilà, Dieu t'aime toi, est-ce qu'il y a des images bibliques ou des textes bibliques ou des représentations peut-être qui vous viennent? Spontanément, ça vous fait penser à quoi? Le fils prodigue? La crucifixion, ouais.
Le jeune homme riche.
Le jeune homme riche. C'est bien comme ça, on a des hommes, des femmes, c'est parfait. Ok, bah ça fait déjà pas mal de références. Moi, en réfléchissant, le tableau ou l'épisode qui m'est venu, c'est celui-là. Alors, si certains d'entre vous ont eu la chance d'aller à Rome et ont eu la chance de passer dans l'église Saint-Louis des Français, vous avez peut-être pu contempler ce tableau en vrai. Donc, c'est un tableau du Caravage qui représente l'appel de Matthieu. Donc, ce moment où donc Matthieu, qui était un publicain, donc un collecteur d'impôts, dont on sait qu'il détournait en fait de l'argent. C'est pour ça que les publicains étaient extrêmement mal lus. Et donc le texte biblique raconte les choses de façon extrêmement rapide. Jésus passe, il voit ce publicain à sa table, il lui dit « Viens, suis-moi », et le type se lève et le suit. Et ce que je trouve assez intéressant dans ce tableau, c'est ce geste dont on aura l'occasion de reparler, ce geste de la main de cet homme-là qu'on voit sur la gauche, avec une expression très étonnée. Donc les historiens de l'art font plein d'hypothèses pour savoir parmi ces personnages lequel est Matthieu. En fait, c'est pas si clair. On pourra en reparler si vous voulez, mais là c'est pas le cœur de mon propos. Mais en tout cas, je trouve que on peut se sentir invité finalement devant cette affirmation « Dieu t'aime » à garder cette attitude spirituelle, cette attitude intérieure de se dire « Moi Seigneur ». Avec une espèce d'incrédulité admirative. Se dire, voilà, c'est à la fois c'est évident, et c'est complètement vertigineux, et c'est complètement fou. Dieu t'aime, Dieu nous aime, il n'arrête pas de nous le répéter dans sa parole, dans la liturgie, dans les relations entre les personnes, et dans la création même, qu'on peut voir comme une lettre d'amour de Dieu pour nous, une lettre d'amour à ciel ouvert. Pour le topo d'aujourd'hui, je vous propose de nous concentrer sur les trois premières questions qui peuvent venir quand on entend Dieu t'aime. Pourquoi? Comment? Et ça change quoi? Et donc parmi ces questions, il y en a une qui est mauvaise. L'une de ces trois questions est un piège. Donc nous allons commencer par l'éliminer tout de suite. Est-ce que vous devinez de quelle question il s'agit? Pardon?
Pourquoi?
Bravo. Donc, c'est la question du pourquoi qui est un piège. Et donc, je vous propose un petit détour biblique par le récit de l'Annonciation. Donc, on est dans l'Évangile selon Saint Luc. Est-ce que vous vous rappelez ce qui se passe? Donc, l'ange va voir Marie, il la salue, il lui annonce un truc complètement incroyable, et Marie pose une question. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'elle me demande?
Comment
cela va-t-il se passer? Vous avez révisé avant de venir, c'est super. Et effectivement, Marie demande comment cela va-t-il se faire, ce qui est en soi une question tout à fait valide. Et précisément, elle ne demande pas pourquoi. Nous autres, on peut avoir un côté un petit peu cartésien et donc avoir le pourquoi qui vient nous titiller assez souvent. C'est pas une mauvaise chose d'ailleurs en soi de demander le pourquoi des choses, mais concernant l'amour, pourquoi, en général, c'est une mauvaise question? C'est une mauvaise question parce qu'elle ne permet pas d'obtenir de réponses satisfaisantes et ou parce que les réponses qu'on peut trouver ont finalement des effets relativement négatifs. Deux réponses possibles, deux pièges. Premier piège, celui de l'orgueil. Machin m'aime, machine m'aime, pourquoi? Dieu m'aime, pourquoi? Parce que je le vaux bien. Parce que quand même, ben voilà. Je fais une petite parenthèse, vous connaissez la différence entre le chien et le chat? Alors il y a des gens qui répondent non, c'est plutôt inquiétant, il y a des gens qui répondent oui, c'est plutôt rassurant. Vérifiez quand même vos marques de croquettes pour voir ce que vous donnez. Donc on raconte que le chien regarde l'homme, et dit oh là là, l'homme est grand, il est fort, il est puissant, il me nourrit, il me protège, ça doit être un dieu. Et le chat regarde l'homme dit, oh là là, l'homme est grand, il est fort, il est puissant, il me nourrit, il me protège, je dois être un dieu. Vous ne verrez plus votre chien et votre chat de la même façon. Donc, premier piège, un peu cet orgueil de se dire, bah, voilà, cet amour, eh ben, je le mérite. Et le deuxième piège, c'est celui d'une forme de rationalisme qui peut mener à essentialiser. Dieu m'aime parce que je suis ceci ou cela. Il m'aime même alors que je suis faible et petit, peut-être même qu'il m'aime parce que je suis faible et petit. Sauf qu'en fait, ça ne tient pas très longtemps, ce truc. Parce que du coup, quand tu deviendras fort et grand, ça veut dire quoi? Que Dieu t'aimera plus? Finalement, la seule réponse qu'on peut faire à pourquoi l'amour, pourquoi est-ce que Dieu m'aime, c'est la réponse que donnait Montaigne au sujet de son amitié avec la Boétie. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et Dieu nous aime parce qu'il est Dieu. Et Dieu nous aime, nous, chacun. Il m'aime moi, il t'aime toi, parce que je suis moi, parce que tu es toi. Et parce que c'est notre créateur. Et évidemment, on peut appliquer tout ce que je dis là à nos relations humaines. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut expliquer de façon rationnelle. J'aime machin, j'aime machinette parce que il est beau, parce qu'elle est intelligente, parce qu'on a les mêmes valeurs, parce qu'on est compatible sexuellement, parce que, etc., etc. Mais on sent bien qu'au fond de nous, il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose de plus fort qui vient dépasser tout ça. Et dans les moments de désespoir où on peut être amené à se poser la question, mais comment peut-elle bien m'aimer moi, alors que je suis tellement ceci ou cela, etc., etc. Et là aussi, c'est une question piège. Question piège pourquoi? Parce que c'est une question qui amène à se regarder soi dans un regard qui va être enfermant. Petit conseil, quand vous entendez cette petite voix qui vous dit ça, quand vous entendez cette voix qui vous amène à vous regarder vous et à vous désoler sur vous-même, eh bien, relevez la tête et contemplez le Seigneur qui, lui, vous regarde avec un regard d'amour et qui vous révèle autre chose d'infiniment plus grand et d'infiniment plus beau. Donc, si ça vous va, je propose qu'on élimine la question du pourquoi, ou plutôt qu'on garde cette réponse claire, Dieu m'aime parce que il est amour. Si je reviens à la blague du chien, et du chat, Dieu ne m'aime pas parce que je suis un dieu. Dieu ne m'aime pas parce qu'il est un dieu. Dieu m'aime parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est ce Dieu trinitaire, cette circulation d'amour qui ne cesse d'aimer et de se donner. Et donc, en termes d'attitude intérieure, on peut regarder à nouveau ce tableau de l'appel de Matthieu et ce geste de « Vraiment, moi Seigneur, tu m'aimes ?» Eh ben oui, vraiment, il nous aime. Et pour toujours. Et alors, je ne sais pas si cette main, la main de, à la fois la main de Matthieu, et on peut regarder aussi la main du Christ, cette main qui appelle, cette main qui crée aussi quelque part, c'est une main qu'on retrouve ailleurs à Rome. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, si on met les deux mains à côté, la main du Christ dans le tableau du Caravage n'est pas la main de Dieu dans le tableau de la création, mais c'est bien la main d'Adam. Donc c'est pour dire que Dieu poursuit sa création, mais c'est une création qui passe aussi à travers l'humanité et à travers l'incarnation. Tout ça m'amène à notre deuxième question. La première question, c'était pourquoi. La deuxième question, c'est comment. Comment est-ce que Dieu nous aime? Et là, vous allez bosser aussi un petit peu. Je vais vous proposer un petit exercice que peut-être certains de vous ont déjà fait avec un texte de Saint Paul, l'hymne aux Corinthiens qu'on appelle aussi l'hymne à la charité, qu'on entend souvent dans les mariages. Donc je vais vous proposer cela, je vais vous demander de ne pas vous précipiter sur vos feuilles, vous vous laissez faire. Je vais vous lire le texte une première fois en entier, après je vais vous le relire en changeant quelque chose. Je pense que vous allez comprendre assez vite. Et puis ensuite, je vous dirai quoi faire. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide. Vous pouvez demander à votre voisin de vous réveiller si vous vous endormez. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, Je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas. Ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste. Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il laisse faire tout. Il endure tout. Voilà, je vais vous relire une partie du texte avec un petit changement que vous allez repérer assez vite. Dieu prend patience. Dieu rend service. Dieu ne jalouse pas, ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Dieu ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Dieu ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Dieu supporte tout. Dieu fait confiance en tout. Dieu espère tout. Dieu endure tout. Dieu ne passera jamais. Vous pouvez à présent ouvrir les yeux. Et maintenant, vous pouvez prendre donc la feuille qui vous a été distribuée. Et je vous invite. Donc là, on va prendre un petit temps de silence. Là, la proposition, c'est de relire donc, cette partie avec cette description de l'amour ou de Dieu, en remplaçant ce mot d'amour par votre prénom. Donc, voilà, Marcel prend patience.
Et si c'est pas vrai?
Et ben, c'est une très bonne question. Et bien, si c'est pas vrai, moi par exemple, Juliette ne s'emporte pas, ben, je suis pas sûre, et ben, je vais chercher dans mon entourage une personne que je connais et pour le coup qui convient, qui correspond à ça. Et du coup, vous pouvez remplacer avec le prénom en vous disant finalement, comment est-ce que les personnes qui vous entourent vous révèlent l'amour de Dieu et la façon justement dont Dieu aime. Donc on se donne 2-3 minutes. Est-ce que ça va ou est-ce que vous avez besoin d'un peu plus de temps? Tout à fait. Après, c'est sûr que trouver, de fait, la personne qui réussit à cocher toutes les cases, entre guillemets, bah, de fait, c'est le Christ. On peut sentir que nous, il y a telle ou telle affirmation qui nous parle un peu plus parce que c'est peut-être. Soit quelque chose qu'on fait naturellement, soit un appel justement de conversion. Et ça peut aussi nous amener à contempler des personnes que nous avons la chance de connaître.
Plutôt une invitation à reconnaître simplement le talent, son chichi.
Et les gens en anglais qui cocheraient éventuellement un peu tout, pardon, mais ne sont pas nécessairement des gens très marrants. Hein. Pardon pour elle, on pense à... Oui, c'est trop bien.
En tout cas, effectivement, je retiens ce que disait Laurent sur le fait que c'est une invitation, je ne sais plus comment tu as dit, à repérer ses talents de façon simple et sans chichi. Sans chichi, tout à fait. Oui, absolument. Et puis moi, ce que je retiens, c'est vraiment cette idée que... on n'y arrive pas, on n'arrive pas à tout, ou pas tout de suite, ou certaines fois, ou avec certaines personnes, etc. Mais je veux dire, en soi, c'est hyper exigeant. Mais bonne nouvelle numéro 1, on a la vie entière. Bonne nouvelle numéro 2, on a le Christ avec nous qui vient justement nous montrer la voie, nous enseigner, et puis On a l'Esprit Saint qui travaille en nous pour justement venir nous convertir. Et ça tombe bien parce que nous rentrons en avant demain. Donc voilà, ça peut aussi nous donner des pistes de conversion pour ce temps de l'avant. Et en fait, j'avais lu il y a quelques années une interview de Gaël Giraud, donc le jésuite économiste, qui parlait justement de ce dessin de Léonard de Vinci, donc qu'on appelle l'homme de Vitruve, et qui disait finalement, ce dessin, ça représente l'idéal donc de l'humanisme de la Renaissance. Donc c'est un homme qui est parfait, qui est très bien proportionné. Mais il est tout seul, il est dans son rond, dans sa cellule, voilà. Et il est super, et c'est peut-être lui la mesure de toute chose, mais voilà. Et finalement, et Gaël Giraud opposait à cette image d'homme parfait mais un peu seul, la conception chrétienne de la personne, qui est justement un être humain qui ne se suffit pas à lui-même, qui est profondément et de façon essentielle pauvre et qui a besoin de tout recevoir de Dieu et qui a besoin aussi des autres pour grandir et pour grandir y compris dans son humanité. De même que nous, voilà, dans ce petit exercice pardon, autour de l'hymne à la charité, on voit bien que d'autres personnes sont comme des trésors dans nos vies et nous révèlent des facettes de Dieu et de l'amour de Dieu pour nous. On voit, donc là c'est aussi un homme donc dans sa bulle et un homme immobile, alors que précisément ici, on voit qu'il y a un mouvement en réponse à l'appel du Christ. Donc je vous propose de passer à la troisième question. Donc on a vu comment, on a vu pardon, pourquoi est-ce que c'était une question piège, on a évoqué un tout petit peu comment. Et donc troisième question, finalement, Dieu m'aime, ok, mais ça change quoi? Si je me fais l'avocat du diable, je peux me dire ok, Dieu m'aime, mais franchement, ça me fait une belle jambe. Concrètement, voilà, c'est pas forcément un amour que je ressens au quotidien, voilà. Si on est amoureux de quelqu'un et que c'est pas réciproque, on peut même se dire ok, Dieu m'aime, c'est génial, mais si c'était Tartampion qui m'aimait, ce serait quand même mieux, ça changerait quand même pas mal de choses dans ma vie. Et de fait, on peut vraiment se poser la question, qu'est-ce que ça change d'être aimé de Dieu, ou plutôt de savoir qu'on est aimé de Dieu? Et finalement, à la fois ça change tout, et à la fois ça change pas grand-chose. Ça, on peut se dire que ça nous rappelle notre infinie dignité, que personne ne peut nous ravir, que ça peut éventuellement nous aider à tenir dans l'épreuve. Je ne vais pas donner d'autres pistes, mais je vais vous proposer un petit détour culturel. Voilà, donc j'ai commencé à mettre la barre très haut en visitant la peinture de très grands maîtres de la Renaissance. On va continuer dans la haute culture. Mais nous allons aller au XXe siècle avec Walt Disney. Et je vais vous montrer trois extraits du Bossu de Notre-Dame. C'est un dessin animé qui date des années 1996, je crois. C'est quasiment contemporain du Roi Lion. Et d'ailleurs, les deux sont assez proches. Si vous voulez comprendre le combat spirituel, regardez le Roi Lion et regardez le Bossu de Notre-Dame. Et donc c'est évidemment une adaptation de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, adaptation très 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 libre. C'est un dessin animé bon, qui à mon avis est plus un dessin animé pour adultes qu'un dessin animé pour enfants. Vous allez voir dans les scènes que je vais vous montrer. Donc pour retracer l'histoire, donc la scène se passe à Paris, dans Paris du Moyen-Âge. Il y a un personnage, vous allez assez vite comprendre que c'est le méchant. Donc c'est Claude Frollo qui est présenté comme un juge, donc en tout cas un homme qui a de l'autorité. Et lui, son but dans la vie, c'est, le combat de sa vie, c'est d'exclure les gitans de Paris. Donc il peut tuer les gitans, etc. Et la scène commence, le dessin animé commence par une scène assez horrible, où on voit des gitans qui essaient de s'enfuir, dont une femme gitane qui en fait a un bébé. Et Frollo donc, tue la maman, s'aperçoit qu'elle a un bébé, s'aperçoit que ce bébé est très laid et il veut le tuer. Sauf qu'à ce moment-là, l'archidiacre de Notre-Dame sort et lui dit, lui interdit de jeter ce bébé, et donc il y a une espèce de deal entre Frollo et le diacre de Notre-Dame, l'archidiacre. Il dit « Ok, je ne le tue pas, mais dans ces cas-là, vous le gardez planqué, caché, dans Notre-Dame. » Et c'est ce qui va se passer. Et donc ce bébé qui grandit va s'appeler Quasimodo. Donc de fait, il est difforme, et il va rester caché dans Notre-Dame. Et il est sous la dépendance absolue de Frollo. Voilà. Et donc, je vais vous montrer, on va regarder d'abord une première scène. Alors, c'est assez glaçant comme scène, je suis désolée on va regarder deux trucs un peu horribles, et le troisième extrait va être plus sympa, promis. Quasimodo a pour seul ami des gargouilles, qui prennent vie quand il est seul avec elles. Et la grande question, c'est qu'il va y avoir la fête des fous, donc un festival dans Paris. Donc évidemment, Quasimodo, en principe, ne doit pas y aller. Mais les gargouilles l'encouragent à y aller en secret. À ce moment-là, Frollo arrive, fait un grand discours à Quasimodo pour lui expliquer pourquoi il ne doit pas y aller. Et c'est là qu'on va entendre cette chanson.
Tu ignores comment c'est en bas. Moi, je sais. Sois-en sûr. Le monde est cruel, le monde est méchant. Je suis le seul qui veuille ton bien dans cette cité. Je suis ton seul ami. Je te nourris, t'instruis, t'offre un abri. Je regarde ta laideur sans peur. Comment protéger ta vie si tu ne te meurs pas ici? Rappelle-toi ce que je t'ai appris, Quasimodo. Tu es difforme.
Je suis difforme.
Et tu es très laid.
Je suis très laid.
Ce sont des crimes aux yeux des hommes qui sont sans pitié. Mais tu ne comprends rien.
Cette mot défense.
En bas, ils te traiteront de monstre.
Je suis un monstre.
En bas, c'est la haine et le mépris.
Oui, bien qu'un monstre.
Tu dois fuir leur calomnie, leur intolérance. Reste ici, reste-moi fidèle, reconnaissant. Fais ce que je dis, obéis et reste ici.
Vous êtes si bon, maître. Je suis désolé.
Je te pardonne, mais n'oublie pas, Quasimodo. Ceci est ton sanctuaire.
Ça va? En fait, l'idée, c'était... Donc, on a vu un petit peu quelques caractéristiques de l'amour. On peut dire qu'avec cette vidéo, on voit les caractéristiques de ce que l'amour n'est pas. Ça vous inspire quoi, cette vidéo? Enfin, ce petit passage?
C'est de la manipulation. Emprise, ouais.
Alors j'entends beaucoup d'emprise et de manipulation, ouais. Ok, bah effectivement c'est ça. Pour info, quand j'étais dans le diocèse de Marseille, j'avais participé à des formations à l'accompagnement spirituel où on avait des temps précis sur justement la manipulation, l'emprise, etc. Où du coup on travaillait justement à partir de cet extrait-là. Parce que de fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses à analyser. Finalement, ce qu'on voit, c'est effectivement donc cette relation d'emprise de Frollo sur Quasimodo. Une chose assez intéressante aussi, sur ce que je dis, qui peut être en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur la question du regard. En fait, Frollo va enfermer Quasimodo dans un regard négatif sur lui-même. Bon, accessoirement, il l'enferme dans le mensonge, mais ça, c'est... Enfin, vous comprendrez quand vous verrez l'ensemble du dessin animé. Et il lui dépeint donc de lui-même une image très négative, tu es difforme, etc. Machin. Et il lui donne aussi du monde une image atroce. Donc en plus, ça sert à Frollo dans son entreprise d'enfermement, qui en l'occurrence est un enfermement physique. Avec ce truc de les gens vont te refuser, les gens vont te rejeter, etc. etc. avec une technique de, d'absolutisation. Bon, alors là, c'est l'ignatienne en moi qui refait surface, mais petit tips de combat spirituel. Quand vous entendez une petite voix intérieure qui vous dit « De toute façon, les gens sont tous cons, c'est toujours comme ça, c'est jamais ceci, c'est jamais cela », a priori, ça ne vient pas de Dieu. Le mauvais esprit, sa spécialité, c'est de ne pas faire dans la dentelle et de caricaturer énormément les choses. Partant toujours d'un petit truc vrai, mais en l'absolutisant et en faisant une loi. Et c'est là que, dans le combat spirituel, l'un des enjeux, c'est de revenir justement à la vérité pour faire l'effort, parce que c'est un vrai effort, de rentrer dans la nuance. Et de fait, dans l'histoire de ce dessin animé, ce qui est assez intéressant, c'est que... bon, désolé, je vais un peu spoiler, mais il faut quand même regarder, regarder ce film. Évidemment, Quasimodo va quand même aller à la fête des fous. Évidemment, ça va très très mal se passer. Enfin, de fait, ça va très mal se passer. Et donc, on pourrait se dire, enfin, il pourrait se dire, bah voilà, après tout, Frollo m'avait prévenu, ça s'est mal passé, tous les hommes sont horribles, donc je vais rester dans ma tour et ne jamais en sortir. Ce qui, de fait, est son premier réflexe. Et vous verrez le dessin animé pour savoir pourquoi c'est pas tout à fait ça qui se passe. Donc cette scène était assez pénible. On va en regarder une qui est pire. Je préfère vous prévenir. Donc là, c'est, on va regarder la prière de Frollo. Donc Frollo, on ne comprend pas trop pourquoi, mais il est, enfin, il est sous-entendu qu'il est célibataire. De fait, il porte toujours une espèce de robe, donc on peut supposer qu'il est un peu ecclésiastique dans le dessin animé. Or, il se trouve qu'il a un désir charnel extrêmement clair, vous allez voir, pour Esmeralda, qui, pas de bol, est une gitane. Et donc, voilà, Frollo est en proie à un combat intérieur assez terrible. Et donc voilà, donc, je vais vous montrer cet extrait et on en parlera après. Et je vous invite à être très attentif aux paroles que dit Frollo, pardon, et notamment à ce qu'il dit de lui. Vous verrez, c'est assez hardcore. Ça vous inspire quoi, ce passage?
De la tristesse.
Pardon. Pythagore un psy, ouais, tout à fait, on est assez d'accord. Ouais. Ok. Peut-être avoir un accompagnement spirituel avec Xavier, par exemple, ça pourrait être bien aussi. Xavier ou autre. Mais... en tout cas, effectivement, on voit cet homme qui. On parlait d'enfermement tout à l'heure. Donc, de même qu'il essaye d'enfermer Quasimodo, en fait, on voit que lui-même est enfermé. Et notamment dans cette image qu'il a de lui-même. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe au tout début, quand il dit Beata Maria, etc. Moi je suis pur, moi je suis celle-ci, moi je suis cela.
C'est comme le pharisien qui va prier au temple.
Exactement. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez. Donc c'est exactement comme le pharisien qui va prier au temple et qui lui est tellement content d'être bien, etc. Et bien bah, c'est une transition parfaite, Marie-Jo, merci beaucoup. J'avais briefé Marie-Jo au début pour qu'elle dise ça précisément à ce moment-là. Puisque, du coup, après avoir vu la prière du pharisien, je vous propose de regarder la prière du publicain. Enfin, en l'occurrence, de la publicaine, entre guillemets. De regarder la prière d'Esmeralda. Ça n'a absolument rien à voir. Et donc là aussi, donc là c'est la vidéo douce et sympa, qui permet de compenser avec les deux premières. Rendez-vous attentif à. Enfin, soyez bien attentif justement aussi à ses paroles, à son attitude. Vous verrez, il y a aussi d'autres personnes qu'on entend prier, donc voilà. Vous voyez un peu la différence entre ces personnes. Et je vous invite à avoir en tête, peut-être en fond, hein, quand vous regardez, le texte des béatitudes.
Mais qu'est-ce qu'ils font entre les gens qui sont différents de moi ?
Tu ne peux corriger seul les erreurs de ce monde, ma chère enfant.
Il n'y a personne dehors pour le faire, ça c'est sûr.
Eh bien, peut-être y a-t-il ici quelqu'un qui t'entend ?
Ça vous inspire quoi, cette vidéo-là ? Donc la fin est touchante.
Elle prie pas pour elle, elle prie pour les autres.
Elle prie pas pour elle, elle prie pour les autres, ouais.
On est tous enfants de Dieu.
Oui, on est tous enfants de Dieu, tout à fait. L'humilité. Oui, ne jamais désespérer, tout à fait. Il y a vraiment un parallélisme dans la construction entre ce passage-là et puis la prière de Frollo, où à la fin, en fait, les deux s'écroulent, les deux tombent, sauf que Frollo, il est tout seul face à sa cheminée, et qu'elle, elle est sur la rosace, et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais elle n'est pas au centre, elle est un tout petit peu sur le côté. Et elle s'effondre, mais dans les pattes de sa chèvre. Ben, y a vraiment ce truc, là où Frollo est toujours tout seul, et où il s'enferme, Esmeralda, justement, est dans la relation. Donc au début, il y a cet échange avec l'archidiacre, et de fait, elle est dans un espace ouvert. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Et finalement, ces deux vidéos peuvent nous dire quelque chose pour répondre justement à cette question de, finalement, être aimé de Dieu, ça change quoi ? Ben, moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être cette différence entre Frollo et Esmeralda. Donc, Frollo qui, on l'a dit tout à l'heure, le dieu auquel il parle et peut-être pas le dieu auquel nous on croit. Frollo, il est vraiment dans l'image et dans le rapport de force. Il y a une phrase à un moment qui est horrible où il dit « Pourquoi notre père a fait l'homme moins puissant que Lucifer ?» Et donc, en fait, on a l'impression que du coup, le combat, il l'a déjà perdu. Parce que précisément, il est dans ce rapport de force où c'est lui seul, ou plutôt lui dans l'image de lui-même, contre lui-même finalement. Alors que Esmeralda, elle a cette attitude d'humilité, d'ouverture, de besoin des autres, qui fait qu'elle peut être touchée par l'amour de Dieu et qu'elle peut s'ouvrir à d'autres. Donc finalement, se dire, faire cette expérience de savoir qu'on est aimé de Dieu, on peut le décliner en plein d'affirmations. Se rappeler que toi, moi, vous, on était voulus dès avant la création du monde, que nous sommes là, nous sommes en vie et que cela est bon, et qu'on sera toujours aimé quoi qu'il arrive. Et que finalement, cet amour de Dieu, c'est à la fois un héritage qu'on reçoit du fond des siècles avec la révélation dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et puis tous les témoins qui se sont relayés depuis 2000 ans pour nous révéler cette bonne nouvelle. C'est un héritage et c'est à la fois une promesse. Cette promesse de Dieu qui nous dit « Je t'aime et je t'aimerai toujours ».
Moi, j'ai vu dans Frollo aussi beaucoup de souffrance.
Tout à fait.
Oui. Souffrance où on appelle un homme qui cherche... Il cherche à aimer, quelque part, il s'y prend très mal, il n'y arrive pas, il est pris par ses démons personnels, mais il y a quand même quelque chose de positif, mais il a quand même pas encore rencontré Dieu, il est dans cette souffrance.
Oui, effectivement, enfin, Frollo, on voit que c'est un homme qui est tourmenté, qui est vraiment déchiré. Intérieurement, et que justement, je pense que son drame, c'est qu'il ne s'ouvre pas, enfin, il s'enferme complètement sur cette souffrance-là. Et à un moment, justement, en formation en accompagnement spirituel, on s'était dit, mais si on était, nous, l'accompagnateur de Frollo, et surtout l'accompagnateur spirituel, qu'est-ce qu'on lui dirait, qu'est-ce qu'on lui donne comme conseil pour que, justement, il puisse faire cette expérience de Dieu, sortir de cette souffrance. Quelque part, ce qui fait aussi la force de cet homme, et aussi ce qui le bouffe ou ce qui le tue, à savoir un très haut sens moral. On peut supposer qu'il fait bien son boulot, ou qu'il le fait de façon peut-être un peu trop zélée, mais en tout cas voilà. Et ça nous dit aussi un truc qui est très important justement dans le combat spirituel, qui est qu'en fait, celui que Saint Ignace appelle l'ennemi de la nature humaine, le démon, etc., va nous attaquer évidemment par nos points faibles. Donc par les moins bons côtés de nous-mêmes, mais c'est trop facile. Mais comme il est aussi très fort, il arrive à nous piéger par nos meilleurs côtés. Et là-dessus, je vous invite à voir Le Roi Lion, et vous allez comprendre. Et là, je pense que pour Frollo, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les esprits poussent en lui sur ce levier de la moralité, de la perfection, etc., etc., mais beaucoup trop. Et donc, quelque part, c'est là où l'expérience d'être aimé de Dieu, c'est vraiment cette expérience fondamentale de se reconnaître pauvre devant le Seigneur, se reconnaître comme ayant besoin d'être en relation pour sortir de la bulle de l'homme parfait qu'on a vu tout à l'heure, pour pouvoir être sauvé finalement, et sortir de cette souffrance qui dévore trop long. Donc là, je vous propose juste de prendre une ou deux à deux minutes pour vous dire, bah, noter qu'est-ce que je retiens, soit comme chose que je garde, soit comme question, soit comme piste.